Musicopolis. Un soir, dans les années 1750, Potsdam, château de Sanssouci. Dans une grande salle du château de Sanssouci, une petite assemblée est réunie. Un grand lustre éclaire le roi Frédéric II de Prusse en habit et hautes bottes de cuir. Il est en train de jouer de sa flûte en bois noir, debout devant un pupitre. Il suit attentivement la partition. Devant lui se tiennent quelques musiciens, parmi lesquels Franz Benda au violon et Carl Philipp Emanuel Bach au clavecin. Derrière lui, quelques dames sont assises et l'écoutent, tout comme font quatre messieurs debout derrière les fauteuils. Le morceau que joue Frédéric II de Prusse en cette soirée intime au château de Sanssouci est son œuvre. Oui, c'est un roi qui tient sa place dans le concert des nations européennes par ses talents militaires et sa diplomatie, et un musicien amateur suffisamment habile pour être le soliste d'un concerto de sa composition. Même si ceux qui ont l'occasion de l'entendre sont peu nombreux, sa réputation de musicien est bien répandue. Alors bien sûr, un roi musicien, j'en vois déjà qui sourit, surtout parmi les professionnels. Et certes, pas moyen de vérifier. Mais avant de nous moquer, écoutons ce qu'il est capable de jouer. Et écoutons ce qu'il est capable de composer. D'après ce qu'on entend du troisième concerto du roi Frédéric II de Prusse, on peut se dire que pour un amateur, c'est déjà du joli travail. Tout à fait dans l'air de ce qu'on écrivait dans les années 30 et 40 du XVIIIe siècle. Et cela avec beaucoup de traits assez virtuoses qui montrent que le royal flûtiste non seulement avait du souffle pour les longues phrases, mais aussi une facilité de bouche pour l'articulation et une certaine habileté des doigts. Comment cette dextérité lui est-elle venue, vous demandez-vous ? Eh bien, comme elle vient à n'importe qui, par la pratique. Et oui, alors qu'il a une vingtaine d'années, il écrit à sa sœur Wilhelmine « Je fais de la musique tous les jours de 4h à 7h ». Voilà, on n'a rien sans rien. Jeune, le prince Frédéric de Prusse, héritier du trône, fils du roi Frédéric Guillaume Ier, a montré des dispositions pour la musique, de même que pour tout ce qui touchait à la culture en général. Malheureusement, son père, dont le surnom était le roi Sergent, pour vous donner une idée du personnage, ne voulait pas que son fils se livrât à des occupations qu'il qualifiait de féminines, synonyme dans son esprit de ramollissantes, indignes d'un jeune mâle promis à une destinée de commandement. Or, le prince Frédéric, lui, voulait bien apprendre ce qui touchait aux militaires, l'art de la guerre, de la stratégie et de la tactique. Mais il voulait aussi lire, écrire, jouer de la flûte, écouter ses musiciens. Comme le père montrait sa volonté de manière particulièrement violente, par exemple, il n'hésitait pas à traîner ses filles par les cheveux, on se doute que les conflits n'ont pas manqué dans la maison royale. Le pire conflit qui ait eu lieu entre le prince Frédéric de Prusse et son père, le roi Frédéric Guillaume Ier, survient en 1730, lorsque le jeune homme de 18 ans décide de fuir la cour de son père avec son ami intime Hans Hermann von Katt. Les garçons sont rattrapés et traduits devant un tribunal militaire, qui se déclare incompétent pour juger le prince, mais condamne à mort von Katt. Le roi va imposer une stricte détention à son fils et il va surtout l'obliger à regarder son ami se faire décapiter. Thank you. Après son adolescence tumultueuse et quelques années d'enfermement, le prince Frédéric s'est marié selon la volonté de son père et il a eu conséquemment l'autorisation d'aller prendre la tête d'un régiment en province. Là, sans rien en dire à son père bien sûr, le jeune homme réunit quelques musiciens et tout en réfléchissant à son futur métier de monarque, il se livre au plaisir de la musique et de la culture. Au fil des années, son petit orchestre s'agrandit et Frédéric attire quelques très bons musiciens et compositeurs, les frères Graun, les frères Benda, bientôt Carl-Philippe Emanuel Bach. Deux fois par an, il fait venir de Dresde Johann Joachim Quantz, pour qui il a une immense admiration. Quantz lui donne quelques leçons de flûte, le fait profiter de ses conseils de compositeur et lui construit même quelques flûtes, toujours selon des desiderata extrêmement précis. En 1740, à la mort de son père, Frédéric accède au trône et il peut enfin étaler ses goûts au grand jour. Il réintègre Berlin, il rétablit l'orchestre de cour que son père s'était évertué à dissoudre et même il construit un opéra pour faire entendre ce qu'il aime par-dessus tout, l'opéra italien. Pendant ses premières années de règne, Frédéric II de Prusse se montre un grand roi, aussi bien sur le plan militaire et du gouvernement de son pays que sur le plan culturel. Sous son impulsion, Berlin va connaître un véritable âge d'or musical et littéraire, grâce à la cour et grâce à la bourgeoisie montante et éclairée, favorisée par Frédéric. Le roi lui-même défend l'opéra et le théâtre. Il soigne l'architecture de ses palais et de ses villes. Il se fait construire à une trentaine de kilomètres de Berlin le château de Sans Souci, dont le nom même est une profession de foi. Thank you. Lorsque Frédéric II est dans son château de Sanssouci, il vit une vie extrêmement réglée dont Charles Burney nous donne un aperçu. L'historien anglais passe par Berlin en 1772, mais il assure que l'emploi du temps du monarque n'a pas changé depuis le début de son règne. « Sa Majesté, écrit-il, se lève constamment à 4h du matin pendant l'été, à 5h en hiver. Jusqu'à 9h, le roi s'entretient avec ses ministres, lit ses lettres et y répond en marge. Il prend alors sa tasse de café et reprend son travail avec ses ministres qui lui présentent leurs questions, leurs difficultés, les renseignements, les demandes, etc. Il emploie ainsi 2 heures, après lesquelles il exerce son régiment des gardes avec la même exactitude qu'y aurait mise un jeune colonel. Il dîne à midi et longuement, et en général avec 12 ou 15 personnes. Après le dîner, il donne 1 heure aux artistes ou faiseurs de projets. Ensuite, il lit et signe les lettres que ses secrétaires ont écrites sur ses notes marginales du matin. Après quoi, il regarde les affaires du jour comme terminées. Le reste en est donné aux amusements. Après son concert du soir, il donne quelques moments à la conversation, s'il s'y trouve toutefois disposé, avec ses courtisans qui sont là en attendant ses volontés. Dans tous les cas, il a son lecteur qui lui lit chaque soir les titres et les extraits des livres nouveaux. Il se retire toujours à 10 heures et souvent il lit encore, ou il écrit, ou il compose de la musique pour la flûte avant de se mettre au lit. Les commentaires et les jugements sur le jeu de Frédéric II à la flûte sont nombreux. Certains sont peut-être un peu flatteurs en raison de sa position de roi, mais ils vont tous dans le même sens. Les musiciens reconnaissent surtout à Frédéric une grande musicalité, en particulier dans les mouvements lents, qu'il joue avec simplicité et un vrai sentiment d'intimité. L'un d'eux écrit que le roi a modelé son style sur celui des plus grands chanteurs et instrumentistes de l'époque, notamment celui de Franz Benda. La manière dont il nuance ses mélodies avec de délicats ornements témoigne d'une nature musicale très sensible. Ces adagios, dit l'un des musiciens de Frédéric, coulaient en un flot doux, pur, souvent vibrant. La plus sûre évidence que ce jeu si beau venait de son âme. Carl-Philippe Emmanuel Bach, son fidèle claveciniste, mais dont Frédéric II n'aime pas vraiment la musique, trop avancée pour lui et pas formatée dans les modèles italiens comme celle de Quantz. Carl-Philippe Emmanuel, donc, a une phrase assassine sur le goût de son maître. « Vous faites erreur en croyant que le roi aime la musique. Il n'aime que jouer de la flûte. Et si vous croyez qu'il aime la flûte, vous faites à nouveau erreur. Il n'aime que sa flûte. » Quoi qu'il en soit, le roi Frédéric II travaille son instrument avec assiduité. Dans chacune de ses habitations, palais de Charlottenbourg, nouveau palais de Berlin et Sans Souci à Potsdam, il a les mêmes recueils de partitions, avec toutes les sonates et concertos écrits par son cher Quantz, qui travaille maintenant pour lui en exclusivité, et ses propres pièces. On lui connaît plus de 120 sonates et 4 concertos pour flûte, dont le troisième en do majeur est parfaitement de son temps, style galant, à l'italienne, élégant, joyeux et surtout sans souci. Le concerto numéro 3 en do majeur de Frédéric II de Prusse, mouvement final, Konrad Hünteler à la flûte et la Capella Coloniensis dirigée par Ulf Björlin. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Françoise Monteil pour les recherches et le site, Catherine Déréthé pour le mixage et Claire Lagarde pour la réalisation.